Vous êtes bien sur les ondes de Radio Royan Vercors et il est l'heure de Bella Vanille.
Je suis réveillée, un matin de bonheur. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi. Toi, toi, je me suis réveillée, j'ai frémi de peur. Car j'ai trouvé l'envahisseur qui voulait gratter à fleur de rocher. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi. Toi, toi, prêt à massacrer hibou orchidée pour remplir son propre panier. Écho de combine, délire de tracteur. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi. Toi, toi, sous les tirs de mine des hommes sans cœur, chantant le mont banni qui pleure. Les crânes je sécherai, tes larmes de poussière. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi. Toi, toi, je te défendrai d'une furie guerrière. Nous saurons protéger la terre.
Bonjour et bienvenue dans Belle la Vanille. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission qui vous est présentée comme tous les mois par l'association Protégeons le Mont Vanille Royan-Vercors. En voici le sommaire. Dans un premier temps, Pierrick accueillera notre invité du mois, qui est Laurent de l'association La Sourde Oreille. Il nous parlera de la lutte gagnante contre l'implantation d'un terrain d'ULM sur Saint-Hilaire-du-Rosier. Et le billet de Maude porte le titre « Info ou intox sur les PFAS ». Le gang des poêles à frire a-t-il frappé ? Eh bien, Pierrick, je te laisse la parole avec ton invité.
Caillou dans ma chaussure. Caillou dans ma chaussure.
Laurent, bonjour.
Bonjour, Pierrick.
Alors, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui à Bella Vanille, parce que tu es, si je ne m'abuse, le vice-président de l'association La Sourde Oreille.
Tu n'abuses pas.
Voilà, qui a été fondée, si ma mémoire est bonne, en 2020, et qui s'est opposée à un projet d'implantation d'une plateforme qui devait accueillir des ULM de façon régulière sur la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier.
ULM, ce qu'on oublie souvent de dire et dans la communication aussi, c'est paramoteur et certainement aussi du modélisme. C'était un bien plus gros projet que ce qui n'a été dit et même communiqué dans la presse.
Alors ce projet, on va en parler. Concrètement, il y a eu des graines en 2018 avec un arrêté préfectoral qui laissait sous-entendre qu'un tel terrain pouvait se développer sur le nord de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier, c'est ça ?
Donc l'arrêté préfectoral a été déposé le 26 mars 2018, mais dans la plus grande discrétion. Aucune personne n'a été au courant et d'ailleurs dans aucune trace de PV de conseils municipaux, on retrouve trace d'un quelconque arrêté préfectoral qui fait état d'une plateforme ULM permanente.
Alors à Radio Royan-Vercors, on est habitué des projets qui arrivent un petit peu parachutés comme ça et qui tombent sur la tête des riverains. Donc là, on est encore dans ce cas-là où quelqu'un veut développer une activité avec des ULM, du modélisme, des paramoteurs et les riverains ne sont pas consultés, ne sont pas informés. Le temps s'égrène et puis on se retrouve en 2020. Il y a un conseil municipal qui a lieu sur la commune. Et qu'est-ce que vous découvrez lors de ce conseil municipal début 2020 ?
Alors, on n'y découvre rien du tout, puisqu'on n'y est pas du tout convié, puis on n'en avait pas information qu'allait être discuté et que notamment l'exploitant allait être présent avec le propriétaire de la parcelle pour faire un lobbying sur ce projet, qui s'est fait d'ailleurs en même temps que sur le Mont Vanille. Et il y a eu une discussion lors de ce conseil municipal auquel on n'a pas du tout été informé. Et en fait, on a eu une information plus précise le 8 février où on a eu enfin un rendez-vous avec le maire qui avait été demandé ce rendez-vous 2 mois auparavant. Et on a compris pourquoi il ne nous l'avait pas donné auparavant, sinon on aurait peut-être eu écho de ce conseil municipal auquel on serait certainement allé pour pouvoir justement amener un contre-discours. Et donc le 8 février, une personne qui a fait partie du collectif et de l'association a rencontré le maire qui lui a dit qu'il y a un arrêté préfectoral qui avait été déposé en 2018 a été renouvelé lors du conseil municipal et que le projet était maintenant quasiment entériné et qu'on ne pouvait plus rien faire.
Voilà, en voie de se pérenniser.
Complètement. Puisqu'en fait, cet arrêté préfectoral est valable 2 ans et on peut en fait faire un recours pendant ces 2 ans. Mais ça, on ne le savait pas, on l'a su qu'après.
D'accord. Donc, suite à ça, le nombre de riverains qui étaient légèrement informés de la situation, qui formaient un petit collectif de base, a souhaité créer une association, c'est ça ?
Alors, un collectif dans un premier temps. Voilà, donc le 12 février 2020, moi-même, voilà, ayant l'information le 8 février, je dis non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'ai d'abord, dans un premier temps, contacté la députée Elodie Jacquier Laforge. Je lui ai fait un courrier tout de suite le lundi. Et puis en copie au maire et puis peut-être encore au préfet. Voilà. Et puis, en même temps, on a essayé de monter un collectif. On était 7-8, où on s'est retrouvés un mardi soir, je crois, le 12 février, chez un voisin qui a bien voulu nous accueillir pour qu'on puisse discuter de comment on allait avancer.
Alors, tout parallèle avec des invités qu'on a reçus, par exemple, le mois dernier, qui luttaient contre l'implantation d'une antenne 4 et 5G sur la commune de La Saône, n'est pas complètement étranger.
Non.
On avait dit qu'on voulait faire un petit rappel parce que, effectivement, on aime bien donner la parole ici aux différentes personnes qui choisissent de ne pas laisser faire. Et donc, ce collectif va grandir, va se développer. Et quand est-ce que vous allez créer l'association La Sourde Oreille, du coup ?
Alors l'association a vu le jour le 26 novembre, donc c'est-à-dire quelques mois plus tard. Mais en fait, c'est le collectif en fait qui est devenu association parce que pour pouvoir attaquer des décisions de justice, il faut que l'association, une association pour qu'elle ait une entité juridique, le collectif n'a pas d'entité juridique, alors que le statut d'association a une entité juridique, mais il faut qu'elle soit créée antérieurement à toute décision de tribunal si on veut l'attaquer. Donc on a monté l'association après pour pouvoir en tout cas représenter les riverains et pouvoir attaquer les décisions de justice.
Alors, pareil, si on fait un parallèle avec Protégeons le Mont-Vanille, Royan-Vercors, c'est un cas d'école. Typiquement, on a besoin d'avoir une structure juridique pour pouvoir aller en justice. Les collectifs ne peuvent pas le faire, effectivement. Donc, passer cette phase de découverte, on va dire, passer cette phase de création de collectifs et d'associations, quels ont été les recours que vous avez conduits pour essayer de vous faire entendre à La Sourde Oreille ?
Alors, les premiers recours, c'est bon an, mal an, on a fait comme on a pu. C'est-à-dire, peut-être d'ailleurs, tu as été présent, j'ai pris la parole, ça tombait bien, c'était les élections municipales. Et donc, il y avait quatre rendez-vous d'élections municipales. Où dès le, donc ça, c'était le 12 février, en tout cas, qu'on a monté le collectif. Et la première réunion était le 20 février, conseil municipal. Et donc, le premier recours, entre guillemets, hormis avoir interpellé Mme Elodie Jacquier Laforge, qui était la députée, je suis allé prendre la parole dans cette première réunion municipale pour les élections. Et donc, M. Bell, donc, qui était un des deux candidats, je lui ai demandé si je pouvais prendre la parole. J'étais accompagné d'ailleurs de la personne qui est venue pour l'antenne 5G. On était tous les deux et j'ai pris la parole 17 minutes dans cette réunion pour pouvoir informer les personnes de ce projet. D'ailleurs, dans la salle, personne n'avait vent, hormis quelques élus quand même, qui avaient eu quelques infos, n'avait vent de ce projet.
Ok. Donc là, vous êtes constitué en collectif, vous prenez la parole de façon publique. Comment vous développez derrière votre lutte ? Qu'est-ce que vous organisez ? Comment vous faites connaître ? Est-ce que vous passez par les réseaux sociaux ? Quelles sont les actions que vous avez menées ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Bien sûr. On monte un site Facebook. On monte une pétition aussi. J'ai interpellé France Environnement, la LPO, j'ai essayé de vraiment, en tout cas, interpeller plusieurs personnes. Le mémo aussi va avoir vent aussi de cette information. Fred de Radio Sud Grésivaudan.
Donc vous êtes relayé dans les médias locaux ?
Alors, on commence à être relayé. Radio Sud Grésivaudan, et on peut le remercier, Fred m'a proposé très vite, quand il a vu sur Facebook les difficultés qu'on pouvait avoir, parce qu'en fait, il était très difficile de communiquer dans notre propre commune. Donc on a eu la radio de Radio Sud Grésivaudan, le mémorial et le Dauphiné aussi qui est venu aussi faire un entretien.
Ok, et donc à force de vous faire connaître, est-ce que vous êtes parvenu à vous faire entendre ?
Ben, je crois. En tout cas, aujourd'hui, ça plaît dans notre faveur. Pendant les trois réunions qu'on a pu faire et les interpellations, parce que Mme Jacquier Laforge a aussi interpellé notre maire, pour demander un peu des comptes, et notamment sur la méthode qui avait été utilisée, complètement discrète, et puis en ne prenant pas du tout en compte l'avis des riverains. Donc il a été interpellé sur la méthode. Les interventions publiques que j'ai pu faire ont fait que le maire aussi a eu un rendez-vous avec le préfet et a demandé au conseil municipal, je crois que c'était le 12 mars 2020, de ne donner plus un avis favorable, contrairement à ce qui avait été fait le 21 janvier 2020, mais de donner un avis défavorable à ce projet, de façon à ce que le préfet puisse abroger son propre arrêté préfectoral.
D'accord. Alors, j'imagine que ce qui a pu aider pendant cette période-là, c'est qu'il y avait une activité donc, sur ces terrains et que du coup, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils étaient concernés par le projet en question.
Ah, mais beaucoup de gens dans la commune le savaient depuis 2 ans et avaient interpellé l'exploitant en lui demandant qu'est-ce que c'était. Ça affolait les chiens, ça affolait les habitants. En fait, les vols étaient très très bas. Hein. Ce qui dérangeait, c'est qu'ils étaient très fréquents. C'est des paramoteurs. Dans la communication de l'exploitant, on parle tout le temps du LM, hein, d'ultra léger moteur. C'est des paramoteurs parce que l'exploitant en fait est moniteur de paramoteurs. Et en fait, cette activité-là a beaucoup de mal à s'implanter. On peut le comprendre dans les voisinages parce que ça a un impact très fort sur les nuisances sonores. Et contrairement aux tondeuses qu'on peut interdire le dimanche de midi à 14h ou à certaines heures, eux peuvent voler du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Donc en fait, le dimanche, vous pouvez être complètement dérangé en plein repas. Et nous, on mangeait à l'intérieur après d'ailleurs. C'était des fortes nuisances et avec des vols à très basse altitude et des rodéos. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de partir, de décoller et de s'en aller, puisqu'il avait aussi en tant que moniteur en fait une activité école. Donc en fait, il y a aussi beaucoup d'élèves qui venaient. Et donc en fait, il y avait aussi des vols à très basse altitude où lui-même faisait des rodéos qu'on a retrouvés d'ailleurs sur des vidéos sur lui-même qu'il mettait sur son site.
D'accord. Et donc forcément, la mairie s'est positionnée contre, si j'ai bien compris, à un moment donné.
Le 12 mars 2020, donc il y a eu un vote à l'unanimité de l'ensemble des personnes présentes dans le conseil contre pour donner un avis défavorable. Puis après, le préfet donc a abrogé l'arrêté préfectoral, donc a été renouvelé le 17 avril 2020. Donc youpi, on a quasiment sorti le champagne. Ça a duré 24 heures puisque en fait, il y a une loi qui date de 1986 où tout particulier peut en tout cas chez lui déclarer qu'il y a une plateforme ULM occasionnelle du moment qu'il a du terrain et que les personnes ont une licence et qu'il les autorise à venir voler. Donc les activités ont quand même continué pendant plus d'un an et demi encore après.
D'accord. Alors, il y a peut-être un petit détail dont on n'a pas parlé dans cette opposition au projet de plateforme ULM, c'est que le lieu devait se voir attribuer un nouveau bâtiment agricole. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, en 2018, un des voisins, qui était, assez affûté, qui connaissait un peu les rouages des tableaux d'affichage du conseil municipal. D'ailleurs, je demande depuis très longtemps à ce qu'on puisse numériser les permis de construire. Ça pourrait être un petit peu aidant. Et puis, en parlant de clarté, ou en tout cas de transparence, comme le disent souvent les élus, et c'était aussi les termes qui étaient employés pendant la campagne. Une des choses qu'on pourrait faire quand même simplement, c'est de mettre déjà des permis de construire par ordre alphabétique affichés sur un site numérique en mairie. Ça serait beaucoup plus simple que des papiers cachés les uns derrière les autres. L'arrêté préfectoral, on l'avait vu personne. Et on découvre en fait qu'il y a un permis de construire sur un hangar qui date du mois de mai 2018. Et ce riverain qui a un petit peu la puce à l'oreille se dit « Mais tiens, c'est bizarre, j'ai entendu aussi vent qu'il y avait un hangar qui avait été acheté pour mettre notamment des avions, des ULM et peut-être des paramoteurs et autre chose. » Et en fait, on demande à rencontrer le maire et le premier adjoint à l'époque qui avait signé d'ailleurs le permis de construire et nous disent clairement qu'ils savent très bien que c'est pas pour un hangar agricole. Hein, je l'ai le permis de construire là sous les yeux si tu veux, je peux te le montrer. Et donc, en fait, eux nous disent clairement qu'ils sont tout à fait au courant et que c'est bien pour autre chose. Donc, ils annulent et ils retirent le permis de construire.
D'accord. Donc
en 2018, septembre 2018.
Le porteur de projet a un petit peu essayé de tordre le bras à la légalité en indiquant qu'un hangar serait construit à titre agricole et en fait allait servir de garage à avion.
Complètement, mais c'est un doux euphémisme hein, que tordre le bras, bien sûr. Et donc, mais depuis le mois de juillet 2018, que les voisins commençaient à avoir un puce à l'oreille en voyant que ce n'était pas simplement peut-être un ou deux paramoteurs qui allaient voler, il y a eu déjà beaucoup d'agressivité de la part de l'exploitant et des personnes qui entouraient l'exploitant et de la part du propriétaire de la parcelle.
Oui, j'imagine que ce genre de projet, ça ne fait pas forcément sens pour tout le monde et ça peut créer des tensions.
Et en fait, si je puis me permettre, je te coupe, c'est en fait cette agressivité-là, moi, qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que moi, j'étais complètement déconnecté. Arrivé la naissance de ma petite fille, Lisa, et qui en plus avait une malformation, donc on a dû aller à l'hôpital régulièrement pour des opérations, etc. Donc moi, j'étais un petit peu déconnecté de tout ça, moi, j'étais un petit peu dans le monde des bisounours. On était tous voisins dans une bonne entente cordiale. Et là, je commence à avoir de l'agressivité. Mes voisins qui me disent qu'ils ont été bousculés et agressés physiquement par justement ce propriétaire, alors que c'est des amis de 40 ans. Et là, il y a un truc qui ne va pas, j'essaye de comprendre. Et je crois que c'est un dimanche du mois d'août où il y a des vols sur la parcelle. J'essaye d'aller rencontrer mon voisin, propriétaire de la parcelle, en posture de médiateur. Et là, je me fais aussi agresser, insulter, etc. Et donc là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, si je peux me permettre.
Et donc s'ensuit une bonne mobilisation avec la constitution du collectif, de l'association, etc. Et le préfet qui décide d'abroger son arrêté. Donc c'est une victoire pour vous.
Ça, c'est pas fini. Ça, c'est le 17 avril 2020. Donc abrogation du renouvellement de l'arrêté préfectoral. Sauf que comme je viens de te le dire, le subterfuge, c'est que l'exploitant qui d'ailleurs connaissait les décisions bien avant nous et nos avocats, donc il devait être très très bien informé, hein, il connaissait très bien les rouages, a déposé quasiment le lendemain de l'abrogation Alors, il n'y a même pas besoin d'autorisation, c'est simplement une information comme quoi ça devient une plateforme ULM occasionnelle. Donc ça, c'est un vieil arrêté de 1986 qui est toujours en vigueur et qui fait toujours foi encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si toi, tu as un terrain, que tu as envie d'accueillir des gens avec leur paramoteur, tu peux le faire, il suffit de poser une déclaration en mairie. Il n'y a même pas besoin de demande d'autorisation. Donc pendant un an et demi avec cette déclaration
Et comment vous avez conclu alors? Comment vous êtes arrivé?
On n'a pas conclu, ça a duré encore 2 ans. Et donc nous on dit mais c'est pas possible, qu'on sait que ça va s'arrêter, on croyait crier victoire comme tu le disais en 17 avril 2001, pas du tout, donc ça a continué. Donc là on a interpellé pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire entre les avocats, la BGTA qui est la brigade de gendarmerie des transports aériens, qui nous ont dit de me faire un tableau de bord, de me donner des outils et de continuer et de voir s'il n'y avait pas des activités école, parce qu'en fait quand c'est une plateforme occasionnelle on ne peut pas normalement faire des activités rémunérées, parce que derrière ça il y a aussi beaucoup d'enjeux. La personne est un moniteur, donc il y a une activité lucrative aussi derrière ça. Hein, et puis, avait vocation certainement à une expansion, puisque même on a appris une fois que une personne aussi des environs du Royan voulait aussi installer aussi tout ce qui était du grand modélisme. Ils n'avaient pas pu s'installer, je crois qu'à Saint-Jean, il y a aussi quelque chose qui peut faire ça. Ils avaient été refusés, au même titre que les ULM et l'exploitant n'avaient pas pu aussi s'installer là. Donc, ils voulaient tout installer là, sur Saint-Hilaire. Et donc, avait même appelé la mairie en disant que le président de la sourde oreille était d'accord. Et voilà. Et donc, ils n'étaient pas un mensonge près pour pouvoir installer certainement un très, très gros projet, puisqu'il y avait ce hangar, du modélisme, du paramoteur, puisque derrière, en fait, c'est pour pouvoir mener des manifestations. Aujourd'hui, je suis en contact avec plus de 8 personnes dans 8 communes différentes qui sont confrontées exactement au même problème, avec le même type de processus, avec le même type de méthode, avec des incohérences, on va dire ça comme ça, avec des élus pour pouvoir mener discrètement et s'installer, monter la plateforme ULM permanente avec des décrets préfectoraux qui passent, on va dire, dans la discrétion des riverains. Et les riverains sont souvent avertis quelques mois après.
Et alors, cette victoire, vous l'avez eue comment?
Eh bien, cette victoire, Alors, c'est parce qu'il faut quand même aussi rendre à César ce qui est à César. On a quand même aussi beaucoup mis la pression sur le nouveau maire qui est passé. Donc, si je peux le citer, Monsieur Bell, qui au départ, en tout cas, avait une posture, on va dire, écoutante. En tout cas, de mon point de vue, insuffisamment accompagnante, mais en tout cas écoutante. Et on lui a demandé de faire ce qu'on appelle un mémoire, hein, c'est-à-dire de façon à appuyer, puisqu'il y avait un recours de la part de l'exploitant. Après, on a appris qu'il y avait un recours qui a été déposé par l'exploitant. On a demandé à la mairie qu'elle participe avec nous à contrecarrer ce recours. Donc, en fait, le maire, donc Sylvain Bell, Madame Élodie Jacquet-Laforge et le préfet se sont rencontrés au moins une fois, je crois en présentiel ou en visio, je ne sais plus, mais au moins une fois, pour pouvoir discuter en fait de la meilleure stratégie pour pouvoir contrer ce projet, où ils ont bien compris qu'il y avait des enjeux énormes derrière, parce qu'on avait fait tout un travail de recherche. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps d'aller voir aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours des plots sur la piste actuellement. La carte est toujours en ligne, alors que normalement, elle ne devrait plus l'être. Il y a toujours une carte de la plateforme et il y a toujours des activités de temps en temps où il y a des vols, puisque moi, je n'habite pas la commune, mais je reviens régulièrement sur la commune. Encore ce week-end, on m'a dit, du moins la semaine dernière, qu'il y avait eu encore des activités. Et donc, en janvier 2022, suite à la concertation et on va dire le travail main dans la main, et le sénateur aussi, Guillaume Gontard aussi, qui était aussi intervenu, le préfet a pu mettre en avant un nouveau arrêté préfectoral pour arrêter toute activité. Donc ça, c'est le 5 janvier 2022, avec un nouvel arrêté préfectoral interdisant toute activité sur la commune. Entre-temps, il y avait aussi des menaces de mort en réunion publique, il y avait eu des agressions de journalistes, il y a eu des faits divers qui montraient qu'il y avait aussi des troubles à l'ordre public.
Et avec ce nouvel arrêté, du coup, vous vous êtes dit, c'est bon, on a gagné ?
Bah là, on s'est dit, non, c'est pas dit, c'est bon, on a gagné. Ça nous a permis de plus avoir d'activité, donc, en janvier 2022. Mais il fallait qu'il y ait une décision du tribunal, puisqu'il y avait un recours. Ce recours au tribunal est passé devant le tribunal administratif de Grenoble, donc au mois de mars l'année dernière. Et là, par contre, on a eu donc le résultat du tribunal administratif qui a donc été en notre faveur. Et aujourd'hui, donc, il n'y a plus d'activité. Le recours, donc... Il n'y a pas eu un deuxième recours sur ce recours de décision tribunale. Il n'y a pas eu d'appel, merci. Il n'y a pas eu d'appel sur ce recours. Donc aujourd'hui, entre guillemets, on a gagné une grosse bataille, mais on reste toujours prudent. Les plots sont toujours en vigueur. La carte est toujours en ligne. Il y a des élections municipales dans 2 ans. Et ce type de projet avec le terrain, il y a un espace incroyable. Moi, je me suis déjà renseigné d'ailleurs avec des gens qui sont sur l'aérodrome de Saint-Jean, etc., qui disent, mais oui, il y a un projet de fou, quoi. Là, je pense qu'il y avait un gros projet financier avec derrière, il suffisait de mettre de l'essence, de la restauration pour que ça puisse être un aérodrome avec un exploitant qui n'a que faire, qui n'habite pas la commune, il faut peut-être le préciser entre parenthèses, qui n'habite pas la commune, qui habite à 200 mètres de l'aérodrome de Saint-Paul-les-Romans, et qui, lui, en tout cas, n'a que faire de l'intérêt et des nuisances pour les personnes, puisqu'il vient voler le dimanche matin à 7h ou à 21h, au-dessus des habitations, faire des rodéos. Donc, nous, moi, je garde, en tout cas, je suis peut-être un des seuls, mais en tout cas, moi, je garde une grande prudence et une grande vigilance sur ce projet encore aujourd'hui, même si on a gagné une bataille juridique importante.
Eh bien, nous, à Bellavani, on est comme toi, on est méfiant, on est prudent, on a gardé le micro ouvert et on a monté une émission de radio justement pour pouvoir communiquer, faire connaître les différents projets qu'il y a sur le territoire, réfléchir à nos méthodes de démocratique, réfléchir aux projets de développement qu'on pourrait avoir pour le Royan-Vercors, et ça nous parle énormément. Donc on te remercie d'être venu nous faire un petit rappel et on vous félicite pour votre victoire, parce que pour l'instant c'est une victoire, et si le projet y devait revenir, et ben on vous fera une place au micro de Bellavanille.
En tout cas, moi, je voulais remercier Radroyon, toi, Pierrick, Séverine aussi, qui m'a interpellé, en tout cas, pour donner la parole. Parce que je crois que la question des médias est aussi un contre-pouvoir important. Et en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il était très difficile de pouvoir faire entendre sa voix. Par contre, je crois qu'on en avait parlé aussi un peu il y a quelques semaines. La force aussi d'un collectif, on la sous-estime. Je crois que chacun et chacune, on a tous des compétences, et ces compétences-là, lorsqu'elles s'associent avec de l'énergie, je crois qu'on est capable de faire des grandes choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là, et en tout cas, de pouvoir me donner la parole aujourd'hui, c'est pas rien, et j'en remercie, je remercie Radroyon, en tout cas, pour cette prise de parole.
Eh ben, merci encore à toi, Laurent, et je laisse la parole à Maud après une petite pause musicale.
Sans elle, et je chantais toute la nuit, et je chantais pour celle qui m'a pas cru toute la nuit. Et même si je peux pas m'envoler, oh, j'irai jusqu'au bout. Je veux jouer, même sans les atouts. Ooh, tu fais semblant de regarder ailleurs. Tu dis même que je te fais peur. Pourtant, tu sais, je tiens plus debout. Si crevé qu'un danseur, oh, 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 il fait lourd, voix du vent qui se glisse sous la porte. Écoute, on m'a changé de lit, changé d'amour, changé de vie, changé de jour. Oh, 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 oh. J'aboirai encore, mais tu t'endors sous mon piano. Quand je joue, c'est le faux. Oh, 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 oh. Oh, libellule, toi t'as les ailes fragiles. Moi, j'ai la carlingue froissée. Mais j'ai chanté toute la nuit. À peine, à peine. Oh, 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 oh.
Alors Maud, voici venu le temps de ton fameux billet, info ou intox. Tu voulais savoir, enfin ça va parler du gang des poils à frire. Tu voulais savoir s'il avait frappé dans l'affaire d'Epiphas. Alors là, tu vas nous parler de ce fameux gang en chanson cette fois-ci.
Accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid.
D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dupont, en ce temps-là, inventa ce qu'on croit de quoi aider les gens, avec la promesse dans leur appartement pour faire leur repas. Aucun de leurs aliments ne collerait au plat. En cuisine, c'est la classe. Plus besoin de frotter le plat. Cette cuisine, c'est la classe. Merci Dupont, on ne s'en lasse pas. En apparence alors, cette invention dès lors pouvait faire de l'or. Tefal s'en empara, badigeonnant ses plats d'un revêtement noir. Il s'avéra plus tard comme un vrai grand carnage pour la santé humaine et environnementale. On venait de créer le monstre insoupçonné des polluants éternels. Car, Nadine, l'Epiphas nous agace. Oui, ce sont des polluants notoires. L'Epiphas, c'est la classe. Ils polluent tout sur leur passage. On étudia alors la classe, vraiment pas classe, des polluants éternels. Une fois créés sur terre, on ne peut s'en défaire. Et ils donnent le cancer. Ils polluent les rivières, se retrouvent dans la terre et chez nos ménagères, avec la promesse que ce que l'on cuit chez soi, eh bien, n'accrochera pas. Et pourtant, les PFAS, c'est pas classe, ils polluent tout sur nos rivages. Les PFAS nous agacent, car ce sont des polluants notoires. Il y eut alors une course entre les inventeurs et le législateur qui voulait interdire chaque molécule maudite. Mais les industriels savaient aller plus vite pour en faire de nouvelles. Le gang des poils à frire savait bien faire la nique aux bases démocratiques. Et pourtant, les PFAS, c'est pas classe. Ils sèment la mort sur leur passage. Les PFAS nous agacent, car ce sont des polluants notoires. On eut alors l'idée d'interdire dès lors des polluants éternels, la classe des PFAS, pour enfin faire face à ce fameux scandale. L'Assemblée nationale nomma un rapporteur qui n'eut vraiment pas peur d'écrire noir sur blanc dans son rapport d'ailleurs ce qu'on savait déjà. Il écrivit que les PFAS, c'est pas classe, ils polluent tout sur leur passage. Les PFAS nous agacent, on sait qu'on ne s'en débarrasse pas. C'était bien sans compter le gang des poils à frire qui ne voulait pas rire, et Tefal envoya ouvrier au combat, payé, ça va de soi, manifester en quart avec force de pancarte devant le Parlement, pour protéger sûrement à chacun son emploi et aux autres leur argent. Les PFAS nous tracasse entre environnement ou emploi. Les PFAS nous agace, on sait qu'on ne s'en débarrasse pas. La sphère des lobbies se mit en marche aussi pour exclure du débat et du vote de la loi, pourtant démocratique, toutes les poils à frire. Les PFAS nous tracassent entre environnement ou emploi. Les PFAS nous agacent, on sait qu'on ne s'en débarrasse pas.
Eh bien, félicitations Maude, il faut le faire quand même. Surprenante chanson qui mérite une explication de texte, évidemment. Tu dis dans la chanson que le groupe Tefal a envoyé des ouvriers pour manifester. Quelles sont tes sources ?
Alors, j'ai vu un post de Camille Etienne qui affirmait que les sources au sein de l'usine lui avaient donné cette information. Et donc, c'est bien le drame de notre société. Nous sommes en pleine guerre de manipulation mentale et cognitive où les poisons industriels sont présentés comme indispensables à notre vie sur Terre. Et là, je vais faire un parallèle historique avec les pesticides. Donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale, les industriels cherchent une autre utilité aux produits létaux destinés à une guerre chimique. Il faut prouver une utilité pour rentabiliser les recherches de l'économie de guerre. Et ces produits, on va les nommer pesticides, et ils aideront les agriculteurs à venir à bout des nuisibles pour leur culture. On forme toute une nouvelle génération d'agriculteurs à les utiliser. Le souci, c'est que les industriels n'ont qu'un seul but, faire du profit. Et lorsqu'on forme des acteurs de l'agriculture conventionnelle, on crée des personnes de bonne foi qui vont utiliser ces produits sans prendre conscience des conséquences pour leur propre santé et celle de leurs contemporains. non pas seulement de ceux qui consomment leurs produits, mais aussi de l'environnement, de la chaîne alimentaire qui va des plantes aux humains, sans prendre en compte le travail essentiel des pollinisateurs, par exemple, qui vont être impactés par les insecticides ou du devenir des substances mortifères que l'on vient d'épandre. Et comme on ne les a pas formés autrement, bon nombre d'agriculteurs portent la croyance qu'on ne peut pas nourrir ses contemporains sans épandre de pesticides. Donc Camille Etienne, quant à elle, dans les posts que j'ai pu voir sur les PFAS, elle fait un parallèle avec l'histoire de l'amiante. Et dans les années 90, donc il y a eu le même problème avec ce produit industriel aux nombreuses vertus ignifuges. Et pour une fois, j'ai envie de vous confier mon expérience personnelle au sujet de l'amiante. J'avais posé une question dans un conseil d'école parisien, car j'avais repéré un flocage qui pouvait ressembler à du flocage amianté. Et au conseil d'école suivant, le représentant de la mairie avait affirmé qu'il ne s'agissait pas de flocage amianté. Comme je n'étais pas spécialiste, même si un grand doute m'habitait, j'ai accepté cette réponse, pensant qu'on ne pouvait pas mentir sur la santé des enfants. Le doute que j'avais formé sur la composition de ce flocage était encore présent lorsqu'il y eut des travaux dans cette école avec des faux plafonds qui masquèrent le dit flocage. Mais je ne pouvais pas imaginer que des êtres humains pouvaient mentir en prenant un risque sur la santé des enfants et de tous les personnels qui travaillaient dans ces locaux 6 heures par jour. 25 ans après ces faits, j'ai pu avoir accès à un site qui répertoriait cette école comme touchée par l'amiante. Je ne connais pas l'impact de santé publique de ce mensonge, mais cela m'a appris qu'il ne faut pas compter sur la bienveillance de nos pères pour faire connaître la vérité qui coûterait cher soit à une entreprise, soit à une collectivité locale.
Oui, alors Maud, tu as de sérieux doutes sur l'innocuité des revêtements anti-adhésifs des poils ?
Oui, car il semblerait que dans le rapport initial, les poêles à frire et autres instruments de cuisine étaient concernés, noir sur blanc et dans le viseur des scientifiques. Je me dis que le souci pour les usines n'est pas tant qu'on les interdise pour l'avenir, car elles seraient en capacité de se reconvertir pour d'autres revêtements, comme l'inox ou la céramique, par exemple. Le souci serait peut-être aussi de mettre en cause ces grands groupes pour les empoisonnements qu'ils ont produits, qui nuisent à l'environnement et à la santé humaine. Si on ouvrait la voie de cette vérité sur les PFAS des instruments de cuisine, la mise en cause de ces grands groupes, depuis l'invention de Dupont de Nemours avec la règle du pollueur-payeur, on pourrait provoquer une catastrophe économique pour ces entreprises. Reconnaître leur nocivité serait la porte ouverte à des indemnisations. Je crains que les lobbyistes ne soient parvenus à faire peur aux élus néolibéraux qui préfèrent les statistiques économiques à la protection de la santé humaine et environnementale.
Et si la nouvelle proposition de loi ne concerne pas les ustensiles de cuisine, qu'est-ce qui est concerné alors ?
Alors les PFAS sont aussi de merveilleux imperméabilisants et à l'occasion de mes recherches, j'ai appris que le Gore-Tex en faisait partie dans l'industrie textile donc.
Quand tu dis merveilleux, Maud, c'est un euphémisme.
Bah oui, Nadine, c'est très ironique. Je souhaite ardemment que la lumière soit faite sur les poêles à frire, car depuis mon enfance, nous en utilisons à la maison et je n'arrive pas à me fier à l'affirmation de Tefal qui soutient que ces ustensiles sont fiables. Je souhaite un regard scientifique neutre et une véritable action des pouvoirs publics pour la protection de notre environnement.
Merci Maud pour ce billet qui interroge sur l'influence des gangs des poils à frire sur le devenir de l'interdiction des PFAS.
Et pour la chanson aussi.
Vous pouvez retrouver sur nos podcasts sur le site de notre association Protégeons le Mont Vanille Royan Vercors à l'adresse pourvanille.fr. Et si vous désirez que votre actualité soit évoquée, n'hésitez pas à nous contacter sur ensemble@pourvanille.fr. Voilà, cette émission vous a été présentée par Maud, Pierrick et moi-même Nadine. Alain était en régie, et nous a proposé plusieurs titres musicaux. À noter que Maud, évidemment, est à l'origine de la musique de son billet. On serait douté. Afin de conclure en musique, nous vous proposons d'écouter Robert Finlay qui nous interprète « You Go It and I Need It » tiré de l'album « Black Bayou » sorti en 2023. En voici la traduction « Tu as ce que je veux et toi, tu veux ce que j'ai ». Quant au titre de l'album « Black Bayou », il s'agit de l'un des lacs marécageux situés dans la région du Bas Mississippi, au sud-est de la Louisiane, où il a vécu son enfance. Le bayou est en fait un bras secondaire du fleuve ou lac établi dans un méandre abandonné. Quant à sa carrière, Robert Finlay vient de fêter ses 70 ans et connaît enfin le succès qu'il mérite. Black Bayou est son quatrième album entre blues, rock, soul et swamp qui puise ses racines dans sa Louisiane natale. Il est le lauréat du Grand Prix Blues and Soul de l'Académie Charles Gros et a fait une tournée en France en ce début d'année. Alors si vous aimez le blues, cet album est à écouter sans commune mesure. Voilà, c'est fini. Nous vous remercions vivement d'avoir été à notre écoute et vous donnons rendez-vous le mercredi 15 mai prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!
I see it, baby. You got what I need, and you need what I got. And you don't worry about being shortchanged, baby, 'cause daddy packing a lot. Say, got the people gonna talk about.